Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici donc mon exposé du mois de mai 2015 qui parlera de Philippe le Bel et de l'affaire des Templiers. Affaires qui ne sont pas très gaies, mais il faut bien passer par les choses sombres de l'histoire de l'Église. La querelle entre Boniface VIII et Philippe le Bel s'est terminée plutôt à l'avantage du roi sur le plan de son pouvoir. Philippe rêvait de restaurer à son profit l'empire de Charlemagne, en particulier d'annexer les états du pape et de transformer le souverain pontife en une sorte de fonctionnaire rémunéré n'ayant en charge que les questions spirituelles. Le roi devait conserver l'aspect civil et tenir un rôle important dans la nomination des évêques et des cardinaux. Cette nomination ne pouvait déjà se faire sans son accord. À noter que, pendant que le siège était vacant, c'est le roi qui se chargeait de l'administration des biens ecclésiastiques, touchant les bénéfices, une espèce de laïcité avant la lettre. Ce droit d'administrer monastères et évêchés entre la mort de leur titulaire et la nomination de leur successeur fut la source de graves disputes qu'une bulle de Boniface VIII tenta de régler, bulle fort peu appréciée de Philippe le Bel, car elle ne lui était pas favorable. Certes, ces querelles ont un côté superficiel et ne touchent pas à l'essentiel, mais ce furent de vraies tempêtes. Cela nous incite encore à réfléchir sur la protection du Saint-Esprit sur une Église qui, sans lui, aurait disparu depuis longtemps. Au-delà de ces disputes, l'Église connut pendant les huit ans du règne de Boniface VIII et les années qui suivirent, plusieurs marques de sa vitalité. Rarement, les missions furent aussi prospères, spécialement en Tartarie, où il y eut de fréquentes relations avec les princes mongols, ainsi qu'en Perse et en Arménie. De nouveaux ordres religieux sont apparus, par exemple celui des Antonins, qui s'est consacré aux soins des pestiférés, avant la Grande Peste qui eut lieu en 1349. Un des représentants les plus illustres en est Saint-Roch, de 1295 à 1327. Citons également Sainte Gertrude, une grande mystique à l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur, qui selon certains fait concurrence à Saint Augustin pour la recherche des objets perdus, et les saints comme Sainte Élisabeth du Portugal, petite nièce de Sainte Élisabeth de Hongrie, et une autre Élisabeth qui épousa un neveu de Saint Louis, et qui eut pour fils deux autres saints, dont un Louis, mort à 23 ans, évêque de Toulouse. Ce siècle fut riche en saints parfois exubérants. À la mort de Boniface, le conclave fut bref. Réuni au bout de 10 jours, ce conclave n'eut qu'une séance. Les cardinaux élirent l'évêque d'Ostie, qui prit le nom de Benoît XI. Il était l'un des deux hommes restés aux côtés de Boniface VIII lors de l'attentat d'Agnani. C'était un dominicain issu d'une humble condition, dont le savoir et la sainteté furent bientôt reconnus. Il avait été chargé de plusieurs légations en France, Hongrie, Allemagne et Venise et connaissait bien des affaires ecclésiastiques. Il tenta de rétablir la concorde en levant les censures de Boniface VIII sans cependant absoudre les auteurs de l'attentat d'Agnani. Benoît avait pensé quitter Rome en proie aux violences des Orsini. Il alla s'installer à Pérouse sous prétexte de maladie. C'est là que la mort le prit, alors qu'il venait de goûter à des figues fraîches qu'on venait de lui envoyer. On accusa Philippe le Bel de l'avoir empoisonné, mais il n'y a aucune preuve. Le conclave qui suivit sut une longue suite d'intrigues entre Guelfes et Gibelins. Philippe le Bel harcelait le Sacré Collège pour avoir une candidature qui lui soit favorable, et cela pendant 6 mois. Les habitants de Pérouse finirent par enlever la toiture du palais qui les abritait en menaçant les cardinaux de leur couper les vivres et de leur jeter des pierres. Du coup, le collège décida de réunir un conclave, lequel élit en hâte un protégé de Philippe, un Gascon nommé archevêque de Bordeaux, Bertrand de Gaux, qui prit le nom de Clément V. Pour beaucoup, il était le pape du roi de France plus que celui de l'Église, ce qui était tout de même exagéré. Toutefois, pour s'éloigner des disputes qui déchiraient Rome, il décida de quitter cette ville. Apparemment, il avait le désir de s'installer en France. Il avait même pensé à Bordeaux, car Rome était devenue invivable. Il avait beaucoup de douceur de caractère et une grande simplicité d'esprit. C'est 4 ans après son élection qu'il opta pour Avignon. 7 papes s'y succédèrent de 1305 à 1378. 7 papes, dont plusieurs furent de bons papes, sans qu'il y en eût vraiment de mauvais. Sans doute Clément V, de caractère faible, ne fut-il pas toujours à la hauteur de la situation que lui créaient les agissements de Philippe le Bel et de son entourage, mais il cherchait surtout à gagner du temps. Philippe le Bel le pressait d'excommunier Boniface VIII, ce qui était pour le moins surprenant, car en matière de foi et de doctrine, jamais les papes n'ont été déjugés. Clément décida de renvoyer la question à un consul œcuménique, après avoir retiré la bulle qui condamnait le roi. Après un procès de 11 mois, pendant lesquels la mémoire de Boniface fut traînée dans la boue, le concile déclara Boniface pur de toute hérésie. Qu'il ait été un mauvais pape, c'est possible, disait-on, mais docteur d'erreur, c'est impossible. Après cette conclusion, Clément V couvrit Philippe de fleurs, Guillaume de Nogaret fut absous et tout rentra dans l'ordre. En 1308, le trône d'Allemagne devint vacant. Philippe le Bel tenta de se le faire attribuer sous le prétexte que le royaume de France était plus stable que l'Empire qui dépendait d'élections. Mais les électeurs choisirent Henri de Luxembourg, accueilli avec enthousiasme par les Gibelins qui le firent sacrer à Naples. Il mourut peu de temps après. Il tenta une expédition guerrière pour reprendre Florence, mais il mourut à Sienne, empoisonné, certains disent par une hostie, ce qui semble bien peu vraisemblable. La troisième affaire de Célestin V fut celle tristement célèbre des Templiers. Elle fait encore le bonheur des ennemis de l'Église et de ceux de la royauté. Cet ordre, fondé par Saint Bernard, connut une jeunesse splendide, faisant preuve à maintes reprises de foi, de vigueur et de vaillance. Les Templiers étaient particulièrement redoutés par les musulmans. Mais il est certain que, après les croisades, certes, toutes ces vertus tendaient à s'engourdir avec d'autant plus de force que l'ordre était devenu riche grâce aux dons des fidèles et à la bonne gestion de leurs biens. Ils étaient devenus les banquiers de bien des fortunes, ce qui les faisait haïr par Philippe le Bel qui leur avait emprunté de fortes sommes d'argent. Comme il l'a été vis-à-vis de Boniface VIII, ce roi se montra très ingrat. Décidément, l'argent est un fort mauvais maître. Accusé par un apostat, l'ordre subit donc l'assaut de Philippe le Bel. Les Templiers se virent accusés des pires crimes, reniement du Christ, adoration du diable, sodomie. Malgré l'opposition de Clément V qui venait de convoquer un concile, Philippe fit arrêter une 40aine de Templiers. Malgré l'insistance de Clément V, le roi refusa de les traduire devant un tribunal ecclésiastique, si ce n'est celui qu'il nomma 2 ou 3 ans plus tard, à la quête duquel il plaça un certain Enguerrand de Montigny, archevêque de Sens, âme damnée du roi, qui, à son tour en 1315, fut accusé de trahison et de dilapidation des biens et finit pendu au gibet de Montfaucon. Il n'y a rien que du beau monde. Après avoir interrogé les accusés de manière odieuse, on les soumit à la question. 14 chevaliers perdirent la vie. Le plus terrible est que ceux qui voulaient revenir sur les aveux qui leur avaient été arrachés étaient conduits au bûcher directement comme relapse. C'est ainsi que on fit à nouveau au procès de Jeanne d'Arc. L'abbé Huvelin conclut le récit de cette lamentable aventure. C'est une chose horrible que de penser à tous ces jeunes hommes au cœur noble, innocents et accusés d'avoir renié le Christ. Aucun consolateur n'était admis auprès d'eux, car l'entrée des princes des prisons était interdite aux aumôniers. Il y eut peut-être quelques déviations, des aveux récoltés en Allemagne et en Italie, sans torture, ont reconnu des choses étranges dans les cérémonies d'initiation, mais sans que l'on puisse accuser l'ordre d'hérésie. Clément V a cru devoir suspendre l'ordre par mesure de prudence. Ayant encouru la haine des princes, il ne leur était plus possible de servir la cause de la Terre Sainte, mais il ne fut fait aucune allusion à l'hérésie. Dans le but de résoudre ces diverses questions, Clément V convoqua un concile qui se tint à Vienne de 1311 à 1312 et qui, outre le différend avec Boniface VIII, résolut d'autres questions. Composé de 135 membres, il prit quelques décisions importantes, parmi lesquelles les quatre suivantes. Premièrement, on ne refuserait jamais la confession et la communion aux condamnés à mort. Deuxièmement, la gestion des hôpitaux serait retirée aux ordres monastiques et confiée aux clercs dévots. Le résultat financier ne serait plus au bénéfice ou à la charge des ordres monastiques. Notons que les hôpitaux ont toujours été un souci de l'Église qui les a, peut-on dire, inventés. Des lettres d'Alphonse de Poitiers à Saint-Louis font mention de 57 hôpitaux, dont le plus petit avait 30 lits, sans compter les léproseries. On les appelait les hôtels-dieux. Troisièmement, une ordonnance d'Innocent IV avait rendu la fête Dieu obligatoire. Dans le même temps, on installa trois chaires de langues étrangères dans les universités de Paris, d'Oxford, en hébreu, en chaldéen et en syriaque, afin d'encourager l'étude de ces langues dans lesquelles l'Église connut ses premières années. Quatrièmement, une autre décision théologique concerne l'unité de l'âme. Un philosophe de la deuxième moitié du XIIIe siècle, un certain Olivier, enseignait qu'il y avait deux principes différents de l'animation du corps. Un, pour la perception des choses, le principe naturel, et un chargé du raisonnement sur ses sensations, le principe intelligent. Certains en déduisaient que le Christ avait bien l'âme naturelle, mais non pas l'âme pensante, qui était le Verbe lui-même. Le Concile de Vienne déclara que l'âme était un esprit fait pour être uni à un corps avec la double aptitude à mouvoir le corps et en assurer l'intelligence. Le Christ avait une âme pleinement humaine, il était pleinement homme et pleinement Dieu. En ce qui nous concerne, l'âme est faite pour être soumise à un corps. Jean Daujat, théologien laïque comme il se nomme, comparait le sort des âmes attendant la résurrection à celui d'un violoniste privé de son violon. Dans son paradis, Dante décrit les élus qui se réjouissaient à l'idée de retrouver leur corps à la fin du monde. Un corps glorifié, dégagé de toutes les misères consécutives au péché, mais qui reste leur corps, celui qui a reçu une âme à l'image de Dieu. Telles sont les principales dispositions de ce concile, qui allait bien au-delà des affaires plus ou moins sulfureuses liées au bien matériel. Le printemps arrive, je vous souhaite un bon printemps, et nous nous retrouverons au cœur de l'été, enfin à l'été commençant exactement. Je vous souhaite un bon mois de mai.